Ben.
Dans ce journal, on parlera des grèves encore avec une meilleure ambiance à ADT, mais des préavis dans les compagnies aériennes, des marquises et d'un jeune espoir de la natation pour terminer. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Les discussions ont repris hier entre la direction d'ADT et l'intersyndicale.
Et le climat était plus respectueux, a indiqué Cyril Le Gaillic de la CSIP à la sortie de 3 heures de discussion. Fin de semaine dernière, deux courriers étaient arrivés sur le bureau du directeur d'ADT, un premier du haut-commissaire et un second du président du pays. Ils demandaient une résolution rapide du conflit, puis c'est Gwenvael Ronsin-Hardy, le directeur d'ADT, qui écrit à son tour. Dans un communiqué, il s'expliquait sur le dialogue social ou son absence au sein de l'entreprise en grève depuis le 30 juillet dernier. Mais finalement, les réunions d'hier se sont bien passées et la direction devait transmettre hier soir ou ce matin au plus tard un projet de protocole d'accord.
Je suis confiant sur les issues des discussions. On verra dans le projet de protocole qui va nous soumettre peut-être d'ici ce soir ou plus tard demain matin. Il y a eu un changement de tempérament du directeur général, même de la DRH, de tous les points de RPS. C'est ça le point qui achoppe. C'est pour ça qu'on a besoin d'une rédaction où la direction s'engage. Il ne faut pas dire on va étudier, programmer. Non, s'engage à telle date.
Vous venez d'entendre Cyril Le Gaillic. L'intersyndicale veut donc des engagements fermes et immédiats, notamment sur les risques psychosociaux, sans attendre l'éventuel audit proposé par Moetei Broverson. Il demande la création d'un service spécialement dédié à la prévention de ces problèmes et qui resterait hors du champ d'action de la très contestée directrice des ressources humaines.
La proposition qui est faite, c'est de mettre en place un service parallèle qui va s'occuper des problèmes de harcèlement, de RPS, tout ça, technique qui est plus sous la direction de la RH, comme ça, elle va s'occuper uniquement du personnel, de la paye, et on a soumis ça au directeur.
Et une nouvelle réunion devrait se tenir cet après-midi. À noter que la tenue de négociations avait aussi été évoquée dans les sociétés de sûreté, mais elles n'ont pas eu lieu. La grève est donc là-bas toujours en cours et elle couve dans les trois compagnies aériennes locales qui se sont dit surprises par ces préavis. Des rencontres se sont déroulées hier chez Air Tahiti et chez ATN. Et enfin, du côté d'Air Moana, les syndicats indiquaient à la mi-journée ne pas avoir reçu de réponse de la direction. Les préavis de grève prennent fin ce vendredi.
On parle des marquises maintenant où le travail commence après l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
C'était le 26 juillet, l'aboutissement d'un dossier vieux de 30 ans, mais finalement ce n'était pas une fin mais plutôt un début. Désormais tous les acteurs du dossier doivent être réunis dans un comité de gestion. On y trouvera bien sûr les tavanas des 6 îles concernées, les représentants des associations locales, l'État ou l'Office de la biodiversité. Le but, allier mesures de préservation et de valorisation des sites culturels et naturels concernés. On écoute Anatawari Tamari, le responsable de la cellule patrimoine culturel à la direction de la culture et du patrimoine.
Suite à une inscription sur la liste du patrimoine mondial, il faut mettre en place concrètement une structure de gestion, donc un comité de gestion, qui doit permettre en fait d'établir la feuille de route des coordinateurs, mais également des différents services du pays et de l'État pour justement assurer la préservation du bien, son intégrité, et surtout permettre en fait aux communautés locales d'être complètement impliquées dans la gestion de ce bien-là. Donc en fait, ce comité de gestion, c'est l'une des c'est la priorité aujourd'hui de l'équipe projet pour la mise en œuvre de la gestion de ce bien.
Et un arrêté du pays fixera la composition exacte de ce comité qui devrait se réunir deux fois par an. Il devra mener un plan de gestion donc qui comprend 24 objectifs principaux et une centaine d'actions. Il s'agit notamment de maîtriser les espaces invasifs sur les sites, se doter d'une signalétique, renforcer l'implication des riverains et ce n'est pas fini. Il est aussi question de mieux gérer les cours d'eau, revoir certaines réglementations et plans d'aménagement, parfaire la connaissance des sites. Bref, un vaste programme qui nous emmène jusqu'en 2039.
Le plan de gestion ne vient pas empêcher, en tout cas modifier le plan d'action des différents services à la fois du pays et de l'État. Bien au contraire, plusieurs actions qui ont été identifiées dans ce plan de gestion viennent conforter finalement la feuille de route des différents services du pays et notamment de la direction de la culture et du patrimoine. Mais c'est pareil également pour la DIREN, la DEPAM, la DCA, la DRM. Et du côté de l'État pour l'OFB.
Et finalement, le plus dur reste à faire. Il faut gérer un bien complexe et l'application de ce plan de gestion n'est pas une option pour le pays. L'UNESCO fait des contrôles au bout de 5 ans, ce qui était d'ailleurs prévu en 2022 pour Taputapuatea, le premier site polynésien inscrit au patrimoine mondial en 2017. Le Covid a décalé les inspections. La direction de la culture et du patrimoine attend désormais le nouveau calendrier de visite des experts.
Faratea, Papeete et Papeete Faratea en une heure au moment des bouchons.
C'est ce que promet l'armateur touanois de Gage. Depuis 2 ans, il cherche un moyen de desservir la presqu'île par la mer. Ce sera avec la Papeete Express. Faratea deviendra le départ et le terminus pour ses 4 voyages hebdomadaires vers les Raromatei. Les passagers s'arrêteront d'abord à Papeete avant de partir vers les îles et inversement au retour. On écoute les explications de Samuel Maton, le directeur général.
L'idée en fait c'est de rajouter Tairapu à la ligne des Raromatei avec la Papeete Express. Et au lieu d'avoir le terminus et le départ de Papeete, le terminus et le départ se feront du quai de Faratea. On embarque du coup les personnes de la presqu'île et de Taravo qui ont besoin d'aller dans les îles sous le vent devant chez eux. On les amène en ville, ensuite on prend le reste de la clientèle et ensuite on monte sur les îles sous le vent jusqu'à Maupiti. Et ça permettra du coup aussi aux personnes qui veulent faire un Faratea Papeete de prendre le bateau quelques jours dans la semaine.
Ce sera donc d'abord 4 rotations hebdomadaires, les lundis, mardis, jeudi et samedi. Le navire quittera Faratea à 6h30 et arrivera à la gare maritime de Papeete à 7h30. Mais l'aller-retour dans la même journée ne sera possible que le mardi. Les autres jours, la Papeete Express dort à Maupiti. Le site de Faratea a été préféré à celui de la baie Phaéton, un temps évoqué car le quai offre davantage de profondeur et un accès plus rapide au large, mais des études doivent encore être faites.
On a encore des aspects techniques à regarder, notamment l'état du quai de Faratea qui n'a pas été utilisé depuis quasiment toujours au final. Donc il y a des études qui doivent être faites à ce sujet. De notre côté, on a encore des choses aussi à préparer, mais on sera prêt relativement tôt. Il nous faudra un parking et un quai. On est en train de voir dans quelle mesure on peut nettoyer, préparer l'espace, quel espace on peut occuper aussi, parce qu'actuellement il y a des sociétés qui ont déjà une AOT là, sur le quai de Faratea.
Et puis il faudra ensuite tester le plus important, l'engouement ou non de la population. Premier trajet prévu d'ici 2 ou 3 mois.
Les vacances sont terminées, retour en classe pour plus de 48 000 élèves polynésiens.
Et oui, la rentrée c'est aujourd'hui et demain. Et dans sa lettre de rentrée, le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, liste ses priorités. Le plurilinguisme, la poursuite de l'océanisation des programmes, le renforcement de la lutte contre le harcèlement, la mise en place d'un nouveau statut pour les établissements du second degré et la poursuite du plan de rénovation des infrastructures scolaires. Mais surtout, il annonce sa volonté de lancer une réflexion sur l'évolution de notre calendrier scolaire. Ce sera lors des états généraux qu'il souhaite organiser début 2025. Roni Teripaya souhaite que l'on tienne enfin compte des conditions climatiques du Pacifique Sud et des pics de température des premières semaines de l'année civile. Une spécificité déjà prise en compte en Nouvelle-Calédonie, où la rentrée s'effectue mi-février après 2 mois de vacances pendant la saison chaude. Un nouveau calendrier que le ministre de l'Éducation espère mettre en place à la rentrée 2026.
En bref, cette triste nouvelle.
Oui, l'écrivaine et scientifique Paul Laudon est décédé accidentellement en montagne en France. Installée de longue date au Fénois, elle avait notamment publié un guide de randonnée sur Tahiti et Moorea ou encore la biographie de Robert Vann. Ces 2 livres étaient édités chez Auvent des Îles.
On passe au sport avec du VA pour commencer, Lucie.
230 rameurs du Fénois sont arrivés ce week-end à Hawaï. Ils vont participer au championnat du monde de vitesse en VA. Ça se passe à Hilo et ce sera du 16 au 24 août.
Et les JO sont terminés, mais déjà les Jeux de Los Angeles se préparent.
C'est en tout cas l'objectif de ce nageur exceptionnel, Rohutu Teahui, qui a été repéré à Raiatea et depuis ses 13 ans qui enchaîne les performances. Il détient déjà plusieurs titres et records nationaux de sa catégorie d'âge, notamment en dos, sa spécialité. Des performances qui le placent, d'après la Fédération Tahitienne de Natation, parmi les grands espoirs de la discipline, que ce soit au niveau local, national et peut-être un jour international. L'objectif pour ses entraîneurs est déjà tout tracé, intégrer l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2028. Rohutu a seulement 15 ans cette année, mais il en est capable, assure ses entraîneurs. On écoute Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération Tahitienne de Natation.
Rohutu, c'est que c'est un garçon très intelligent, il a le sens de l'eau, il sait orienter ses appuis pour nager vite. Il bat régulièrement des meilleures performances françaises 14 ans et 15 ans maintenant. Il est assez complet, il a le crawl et le dos. Et puis je pense que s'il bosse un peu plus, il peut arriver à un très bon niveau. C'est un espoir, oui, parce qu'il a, il a eu des titres déjà, je te dis, déjà de participer au championnat de France élite à 15 ans, c'est exceptionnel. Donc voilà, maintenant il faut qu'il passe le petit cap au-dessus. Quand il est bien cadré, bah, c'est beaucoup plus facile, quoi.
Et c'est justement l'encadrement qui a manqué au départ de son entraîneur favori, Anis Bidou. Billy a quitté Tahiti pour devenir le coach de la team Speedo à Dubaï. Et après une année difficile, il a proposé donc d'accueillir son élève aux Émirats Arabes Unis. Et voilà que l'adolescent Deraromatei a rejoint Dubaï. Des infrastructures modernes pour s'entraîner aux côtés de nageurs internationaux et étudier dans un lycée privé. Il devrait profiter d'un encadrement complet tant sur le plan scolaire sportif qu'au niveau extra-sportif. Bref, de quoi peut-être être aligné au JO de Los Angeles en 2028 et se retrouver aux côtés de Léon Marchand, pourquoi pas. On vous laisse rêver un peu pour terminer ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse. Et à noter, Nahima Temari, la ministre des Sports et de la Jeunesse, sera l'invitée de la rédaction. Elle sera en direct sur nos antennes à partir de 11h30.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio.